Bon, nous allons passer à la dernière conférence. Donc on a fini à 16h parce qu'il paraît qu'après vous allez faire la fête. Alors, je ne suis pas invitée. Je rigole. Vous m'avez vu. Donc le thème de cette conférence sera les risques des nanomatériaux, quel dialogue entre parties prenantes pour des choix soutenables et responsables. Il va falloir que vous définissiez tout ça, monsieur Lombard. Vous êtes consultant toxicologue et IPRP, donc vous pouvez regarder des informations sur vous, certainement sur le site Vivagora, et aussi vous êtes consultant, votre adresse mail c'est Allo Tox Consulting. Alors, je vais vous dire qui vous êtes. Monsieur Lombard, vous savez que Monsieur Lombard a le nom de quelqu'un de connu, Alain Lombard. Vous chercherez sur Google, vous verrez qui c'est. Personnage très célèbre à mon époque. Voilà. Donc, vous regarderez. Je suis sûre que personne dans la salle sait qui était Alain Lombard. Oh, c'est terrible. Hein. Bon. Non, c'est pas lui. Il n'est pas ressuscité parce qu'il est mort, le premier. Bon. Alors, vous êtes toxicologue consultant. Allo Tox Consulting, décidément. Toxicologue industriel dans l'industrie chimique, Arkema pendant 15 ans. Toxicologue directeur d'études dans des... sociétés sous contrat, CIT, Asleton. Activité dans les nanomatériaux depuis 2000. Plan national santé environnement 2005. Co-rédacteur nanomatériaux et santé au travail à l'AFSET ANSES. Membre AFNOR, GT Nanomatériaux et ANSES, conseiller scientifique de Vivagora, l'association qui est souvent venue chez nous et qui a présenté justement la veille, le travail de veille qu'ils font en particulier sur les nanotechnologies et autres, conférencier sur les risques des nanomatériaux, formateur nanomatériaux et risques HSE. Qu'est-ce que c'est HSE ? Hygiène, santé, environnement, association de toxicochimie, technique de l'ingénieur. Excusez-moi, mais j'avais un peu de mal à vous lire, je suis désolée. Donc nous vous écoutons et merci beaucoup d'être là.
Oui, ben merci beaucoup. Donc je remplace Dorothée Brovert qui ne pouvait pas venir. Donc comme je travaille avec elle à Vivagora depuis un certain nombre d'années, donc elle m'a demandé de faire cette présentation. Donc j'ai un petit peu modifié par rapport à ce qu'elle a fait l'année dernière. Puisque comme je suis toxicologue, je vais vous parler un petit peu de toxicologie. Alors, quand on reparle du nanomonde, vous savez tous, je reviens dessus, le nanomonde, tel qu'il est défini actuellement, c'est avec une barrière de 0,1 micron, c'est-à-dire 100 nanomètres, et jusqu'à à peu près 1 nanomètre. Et le nanomonde, eh bien, c'est toutes les poussières qui nous entourent, toutes les poussières ultra fines. Et actuellement, vous êtes en train d'en respirer 10 000 par centimètre cube. Et vous respirez à peu près 1 mètre cube par heure. Donc vous voyez un peu le nombre de nanoparticules qui sont en train de vous passer à l'intérieur de l'organisme. Alors, ces particules, elles viennent de partout, les poussières atmosphériques. Elles viennent aussi des fumées d'échappement, des fumées de soudure. Si vous allez vous promener derrière un camion qui est mal réglé et qui utilise du diesel, ben vous avez des nanotubes de carbone qui ressortent et des nanoparticules de carbone. Et puis, si vous promenez en Islande, quand il y a eu ce volcan qui a explosé, dont le nom est imprononçable, eh bien, vous avez des tonnes et des tonnes de nanoparticules qui se sont baladées dans l'air et qui sont en train de retomber un peu partout. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que par rapport au milieu biologique, vous voyez que les nanoparticules se situent un tout petit peu à la fin de la taille des bactéries et carrément dans le domaine des virus. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des comportements comme les virus. Et le niveau de comportement, c'est-à-dire la pénétration à travers les cellules et des effets à différents niveaux. Alors, comme je ne vous fais pas de la toxicologie, c'est pour vous rappeler que les nanoparticules, à partir du moment où on va en avoir dans l'air, ici, elles vont se retrouver dans les poumons, bien entendu, dans le nez, dans la bouche, et une partie de ces nanoparticules, environ, toutes celles qui sont rentrées, disons, dans le nez, à peu près 50% de celles qui sont rentrées dans le nez, peuvent se retrouver dans les poumons et des parties profondes des poumons. Et là, elles ont deux solutions pour en sortir. Soit elles sont digérées, soit elles passent dans le sang. Et puis, Il y a une particularité. Le nez, il y a l'épithélium olfactif. C'est un endroit où les cellules nerveuses sont directement en contact avec l'extérieur, avec le cerveau. Et comme c'est la taille des virus, et que les virus peuvent migrer le long des voies nerveuses, on se retrouve avec des nanoparticules qui passent directement depuis le nez dans le cerveau. Et on en a retrouvé, on a des études sur des rats, on a retrouvé dans le bulbe olfactif directement. Ces nanoparticules, elles pénètrent pas. Bon, l'œil, bien entendu, on ne sait pas. La peau, un petit peu. On vous a dit ce matin qu'il y avait du dioxyde de titane dans les crèmes solaires. Bon, les crèmes solaires, généralement, c'est du dioxyde de titane nanostructuré, c'est-à-dire c'est comme un chou-fleur. Si vous regardez un chou-fleur, vous avez beaucoup d'air et vous avez beaucoup de petites particules les unes à côté des autres qui sont accrochées et qui sont entourées par du silicate d'alumine. Et si ce silicate d'alumine est détruit, bien entendu, on peut retrouver des nanoparticules qui sont extrêmement fines. Par contre, les gros agrégats qui sont utilisés dans les crèmes solaires, eh bien, elles n'ont aucune chance de passer à travers la peau. Par contre, dès l'instant qu'on va descendre, puisque c'est à peu près 1500 à 600 nanomètres globalement, alors que si on descend à des particules individualisées qui sont aux environs de 60 nanomètres, 10 nanomètres, on passe directement à travers la peau. Et il y a des études contradictoires dans tous les sens. Dans la bouche, l'estomac, les intestins, bien entendu, on vous a dit ce matin qu'il y avait des nanoparticules qui étaient utilisées comme adjuvants alimentaires. Hein, on a de la silice, on a du dioxyde de titane qui peuvent être utilisés. On a aussi du nano-argent qui peuvent être utilisés pour servir d'antibactérien. Vous savez, quand vous avez un rôti de viande et qu'en dessous, vous avez une espèce de petit tapis blanc qui est super absorbant. De temps en temps, on met des nanoparticules d'argent dedans pour éviter que le sang qui est absorbé se décompose et devienne toxique. Et donc, quand ça rentre dans la bouche, ça va se retrouver directement dans les intestins. Et là, dans les intestins, il y a à peu près 3 ou 4% de ce qu'il y a de nanoparticules qu'il y a dans les intestins qui peuvent être réabsorbés et se retrouver dans le sang. Et quand c'est dans le sang, ça se retrouve pratiquement systématiquement toujours dans le foie, et c'est une des utilisations qu'il y a eu pour les hépatocarcinomes, où ça va directement se baigner dans des organes cibles, c'est-à-dire ça va aller dans les reins, ça va aller dans le cœur, ça va aller dans le cerveau, ça va aller dans tous les organes qui ont besoin d'être irrigués par le sang, et ils peuvent, en fonction des affinités, ils peuvent très bien se coller à un endroit plus qu'à un autre et rester dans cet endroit-là. Ensuite, il y a deux solutions. Quand ça sort du foie, c'est excrété soit par la bile et ça se retrouve dans les intestins, soit ça se retrouve directement dans les reins et là, on va retrouver ça dans les urines. Et bien entendu, avec une possibilité de rester stocké dans les urines. Donc, ce sont des études qui ont démontré qu'on en avait un certain nombre et qu'il y avait un certain nombre de nanoparticules qui pouvaient se stocker à différents endroits. Hein. Alors, bien entendu, il ne faut pas non plus paniquer. Ce n'est pas 100%. C'est un pourcentage. Et ça fait une paire d'années et ça fait même une trentaine d'années, au moins une vingtaine d'années, qu'on a ce type de nanoparticules qui est utilisé. Quand une nanoparticule se retrouve dans un organe, donc vous avez vu, ça peut se balader dans les organes, quand elle se retrouve dans un organe, elle peut pénétrer dans la cellule par différents moyens. Hein. Il y a différents moyens de pénétration dans la cellule, donc je vais pas les sortir. Hein. Et une fois que c'est dans les cellules, bah ça va se coller sur les lipides, ça va se coller sur des protéines, et puis ça va aussi libérer ce qu'on appelle de l'oxygène actif pour faire le stress oxydatif. Et ce stress oxydatif, c'est un des responsables de la toxicité des cellules. Donc vous avez des cellules qui ont été attaquées, qui vont mourir, qui vont être remplacées par l'organe qui va essayer de réparer. Ça peut pénétrer dans le noyau dans lequel il y a l'ADN. Hein, ce n'est pas une enceinte totalement étanche, il y a des pores. Et les pores, on les a observés, elles sont au niveau de 39 nanomètres. Alors 39, 40, hein, c'est plus ou moins précis. Et donc toutes les particules qui sont rentrées dans une cellule et qui sont inférieures à, disons, 35, 39 nanomètres, peuvent avoir la possibilité de pénétrer dans l'ADN, pénétrer dans le noyau, et quand il y a, si jamais elle s'accroche sur une des bases de l'ADN, eh bien quand l'ARN messager va venir pour copier le message génétique de l'ADN pour permettre à la cellule de fonctionner, ça va être comme si vous avez des codes à barre. Vous avez un code à barre qui est altéré, on ne peut plus lire ce qu'il y a dans le code à barre. Hein, et s'il y a plusieurs codes à barre qui sont altérés, eh bien, des codes barres qui sont altérés, bah, on peut très bien se retrouver à un moment donné où la réponse, ça sera « modifie ton fonctionnement ». Et à ce moment-là, la cellule se met à fonctionner d'une manière aberrante. Et c'est ce qu'on va faire, on va appeler ça la génotoxicité, c'est-à-dire on va créer de la toxicité génétique, c'est-à-dire directement modifier le fonctionnement des cellules. Soit la cellule, elle va arrêter de fonctionner, elle va mourir, hein, parce que le code barre ne permet pas de fabriquer les protéines qui vont permettre à la cellule de survivre. Ou on va avoir la possibilité d'envoyer un message à la cellule pour qu'elle relargue des médiateurs de l'inflammation et on va se retrouver avec des inflammations localisées. Donc ça, c'est globalement ce qui se passe. Donc vous voyez qu'il y a quand même des interrogations et ces faits-là ont été vérifiés avec un certain nombre de particules sur des systèmes à la fois animaux, hein, avec des souris, des rats, et sur des cellules. Donc, ce n'est pas seulement, parce que le problème de travailler qu'avec des cellules, c'est qu'on oublie l'homéostasie de l'organisme. Alors, pour résumer les effets, puisque le but, ce n'est pas de vous parler que de toxicologie, les nanoparticules, elles peuvent pénétrer dans les poumons. C'est la première voie d'exposition dès l'instant qu'on va se retrouver en contact avec des nanoparticules dans l'air. Quand elles arrivent dans les poumons, ça, ce sont les alvéoles pulmonaires. Une alvéole pulmonaire, c'est un sac avec une simple cellule et puis des pores de chaque côté. Et donc, ces macrophages-là, ces macrophages, c'est des globules blancs, qui ont pour mission de nettoyer les alvéoles pulmonaires. Et donc, soit ils arrivent, les macrophages, ils vont avaler les nanoparticules et puis ils vont arriver à les digérer. Soit les nanoparticules, elles vont passer à travers le sang ou dans la lymphe, et puis là, ben, elles vont aller se balader dans tous les organes. Hein. Et le problème du nanotube de carbone qui ressemblerait à de l'amiante, c'est parce que lorsque le nanotube de carbone a réussi à traverser la paroi des alvéoles pulmonaires et se trouve dans la plèvre, pour ceux qui savent pas, disons que les poumons sont entourés d'une double coque, hein, d'un double sac, qui assure l'étanchéité. Et quand on respire, ce sont les côtes qui vont créer une dépression pour faire gonfler les poumons. Et donc, si vous faites un trou dans ce sac-là, eh bien entendu, vous avez des problèmes respiratoires. Et le problème de l'amiante, c'est que ça se colle dans la plèvre, ça crée des cancers de la plèvre, hein, des plaques pleurales qui peuvent aller sur des cancers de la plèvre. Au bout d'un moment, les gens sont en insuffisance respiratoire, en plus des phénomènes de cancer. Donc, c'est le problème des nanotubes de carbone. Hein. Alors, pour l'amiante, hein, on parle de l'amiante en général, il faut savoir aussi que l'amiante, c'est plusieurs sortes d'amiante, et que jusqu'à présent, les particules d'amiante d'une certaine taille par rapport à un diamètre sont considérées comme bio-éliminables par l'organisme, alors que les autres entraînent des problèmes. Et si vous avez le courage de regarder, vous verrez qu'il y a une valeur limite d'exposition professionnelle qui est de 0,1 fibre par litre, et vous allez respirer 1000 litres par heure. Donc, c'est la même chose pour les nanotubes de carbone, et c'est pour ça que les nanotubes de carbone extrêmement courts peuvent être considérés comme biocompatibles. C'est-à-dire, ils rentrent et ils ressortent. Alors que les longs, hein, on peut faire des nanotubes de carbone qui sont 100 fois leur diamètre. Si le diamètre est de 1 ou 2 nanomètres, eh bien, on va se retrouver avec quelques millimètres de longueur. Une fois qu'ils forment, bien entendu, quand ils sont dans les cellules, ils peuvent former des inflammations et des phénomènes de génotoxicité et de cytotoxicité. Et puis, quand ils ont traversé la paroi alvéolaire, ben, ils vont un peu partout. Dans le foie, dans le pancréas, dans les reins, dans le cerveau. Alors, il y a aussi un problème, les injections. Quand on injecte des nanoparticules en trop grande quantité qu'on en trouve dans le sang, ben on se trouve avec un phénomène de viscosité, parce qu'ils vont se coller sur les globules rouges, ils vont se coller sur les protéines. Et il y a des études qui ont démontré que certaines nanoparticules pouvaient se coller directement sur les artères et faire des athéromes, des plaques d'athérome, comme si on avait de la sclérose en plaques, hein, globalement. Et donc, ça va coller petit à petit dessus, mais ce n'est pas la sclérose en plaques, puisque la sclérose, c'est sur les voies nerveuses, mais ça va faire des petites plaques qui vont réduire le diamètre de l'artère et qui va risquer de créer une thrombose et donc les problèmes d'accident cardiaque, par exemple. On a vu aussi que ça passait dans le fœtus. Chez les souris, on s'est rendu compte qu'en exposant des souris à des nanos, d'une certaine catégorie de nanos, eh bien, ça passait dans le fœtus et on le retrouvait dans le cerveau du fœtus et dans les testicules du fœtus. Donc, il y a pas mal d'études qui démontrent que ça passe et que ça peut avoir quelques effets. L'écotoxicité, bon, qu'est-ce qu'on fait dans l'écotoxicité? On va tester différents niveaux trophiques. Hein. On va tester des algues qui sont mangées par des crustacés, qui sont mangées par des poissons. Les algues sont mangées aussi par les poissons, ça dépend des poissons. Hein. Et donc, on va tester pour voir si les nanos ont un effet sur ces différents éléments. Et bien entendu, on s'est rendu compte que certaines augmentaient la mortalité des daphnies, et puis que certaines se retrouvaient sur les branchies des poissons, puisque les branchies des poissons sont faites pour filtrer l'eau et récupérer l'oxygène, et créer des nécroses sur les branchies des poissons, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les poissons avaient des problèmes. Ouais. Et on s'est rendu compte que certaines nanoparticules, comme les nanoparticules d'argent, ont des propriétés bactéricides ou bactériostatiques, ça dépend comment ils fonctionnent, hein, et qui peuvent modifier la flore de l'environnement. Et bien entendu, la question qu'on se pose, qu'est-ce qui va se passer dans les stations d'épuration? Alors, quand on a vu tout ça, ça nous pose. Alors, c'est très général, hein, ce que je vous fais en l'espace d'un quart d'heure, je le fais en plusieurs heures, hein, normalement. Donc, je suis obligé de devoir un message très tranché. On est obligé de se poser la question du cycle de vie. Et on se dit, quels sont les points dans lesquels on va exposer les gens ou on risque d'exposer les gens? Alors, il y a la production du matériel, la production des produits. Hein. Et là, l'exposition des travailleurs. Bon, là, c'est un problème qui est relativement bien géré. Et la personne, Mme Taxera, qui a travaillé à Arkema, moi, j'ai travaillé à Arkema, mais je ne veux pas en parler. Elle a travaillé directement dans ce domaine. Elle vous dira que c'est relativement bien géré. On essaye d'éviter, par une automatisation extrêmement poussée, qu'il y ait du personnel exposé, ou le personnel qui peut être exposé sera soumis à des conditions de contrôle des expositions extrêmement drastiques. Là, ça va. Où c'est embêtant, c'est quand on va envoyer ces nanoparticules dans des sociétés qui vont les incorporer dans du plastique ou qui vont les incorporer dans des puces électroniques ou qui vont s'en servir pour autre chose. Hein. Et là, ils n'ont pas forcément l'argent et les moyens de mettre en place des systèmes de contrôle aussi importants. Et puis après, on va se retrouver avec le consommateur. Ben, le consommateur, c'est, bon, si on a des nanotubes de carbone dans une raquette de tennis, bon, le type qui s'expose en mangeant sa raquette de tennis, à mon avis, il a un autre problème que les nanotechnologies. Hein. Donc, il n'y a pas de risque. Hein. Celui-là, on s'en fout. Par contre, vous achetez du sel. Vous savez pourquoi on prend on met du dioxyde de titane ou de la silice dans le sel? C'est pour que ça enrobe les grains de sel et éviter que l'humidité les fasse coller entre eux. C'est la coulabilité du sel. Vous regarderez, si vous prenez du sel de Guérande, par exemple, puisque tout le monde connaît Guérande, il va coller dans le pot au bout d'un moment. Si vous prenez du sel normal, vous arrivez à le faire couler au bout de plusieurs jours, il va sortir, parce que chaque grain est enrobé. Et vous avez du dioxyde de titane qui se trouve, par exemple, posé sur les chewing-gums. La petite couche blanche que vous avez sur vos chewing-gums, c'est pour empêcher les chewing-gums de prendre l'humidité et de coller sur le papier. Si ça devient transparent, hein, normalement, la petite couche blanche, vous êtes en micro. Et si ça devient transparent, ça fait le même effet, mais c'est du nano. Hein. Donc, on en trouve comme ça. Et là, on va se retrouver avec le problème du consommateur. Hein. Et puis, ça ne suffit pas, mais il y a la fin de vie. Quand vous allez jeter votre raquette, quand vous allez aller aux toilettes et que vous allez relarguer les nanoparticules qui sont dans votre intestin, eh bien, il va falloir les traiter. Hein. Et le traitement, eh bien, à la fin du traitement, c'est soit des incinérations, et là, on a une chance d'en relarguer dans l'environnement, soit de l'épandage pour les maraîchers. Hein. Et là, eh bien, on s'est rendu compte que certaines nanoparticules pouvaient être intégrées directement dans des plantes et se retrouver dans les racines et dans la tige et même certaines dans les graines. Donc ça veut dire qu'on est en train de faire un cycle complet. Hein. Donc il faut qu'on arrive à gérer ce problème-là et essayer de comprendre comment utiliser ces nanos, parce que c'est quand même un potentiel extraordinaire au niveau technologique. Certains chercheurs disent qu'on a passé un cap. Si vous voulez, on est monté un peu comme l'invention de l'électricité. On est allé on est monté à un cap supplémentaire au niveau technologique. Et donc, il faut qu'on arrive à gérer tout ça. Et à la fin, Alors, les travailleurs, on arrive à gérer. Hein. Enfin, il y a la population. Et la population, on ne peut pas gérer ni les expositions, ni le recyclage, on ne sait pas ce qu'ils font. Hein. Alors, quand on se retrouve avec des particules, il y a nos particules libres. Alors, il y a nos particules libres, c'est quoi ? Eh bien, vous avez des gens qui font des sprays. Hein, ça, c'est un spray qui est inventé par un cosméticien japonais. C'est du nano-argent que les dames se mettent sur la figure pour éclaircir le teint. Hein. Je ne sais pas si ça éclaircit le teint, mais c'est certain que chaque fois que vous donnez un petit coup de spray, vous en respirez une bonne dose et ça repasse à l'intérieur de l'organisme. Là, ici, ce sont des suppléments alimentaires. Hein, on vous fait des suppléments alimentaires, des minéraux ultra fins, parce que, soi-disant, ça pénètre mieux et ça va dans l'organisme plus facilement. Ceux-là, ils sont extrêmement exposés. Les chaussettes au nano-argent. Hein, on vous vend des chaussettes au nano-argent. Alors, on dit, c'est pour éviter que les pieds sentent mauvais. Oui, mais ce n'est pas seulement ça. Quand vous avez, par exemple, l'armée israélienne en a acheté énormément. Dès l'instant que vous avez une armée ou des gens qui sont obligés d'être dans des conditions extrêmes, où il fait très chaud et ils transpirent dans les chaussures, toutes les blessures peuvent se transformer en infections. Donc en mettant des chaussettes au nano-argent, on diminue les infections. Et pour les diabétiques, qui ont tendance à avoir des problèmes, eh bien, on garantit pendant plus longtemps la sécurité de leurs pieds. Hein ? Donc ce n'est pas totalement inutile. Mais chaque fois que vous lavez une chaussette au nano-argent, au bout de 20 cycles maximum, il n'y a plus d'argent sur les chaussettes. Tout est parti dans les eaux et dans les stations d'épuration. Hein ? Alors, on a aussi, vous pouvez trouver dès maintenant, des pansements au nano-argent, hein, pour éviter une surinfection si jamais vous êtes blessé. Et ça se vend en pharmacie en libre. Ensuite, donc ceux-là, les chaussettes au nano-argent, bah, c'est du dispersible assez rapidement. Hein. Donc, ça veut dire qu'on s'en retrouve un peu partout. Il y a des champs opératoires qui sont au nano-argent. Hein, et pour éviter une surinfection. Donc il y a quand même pas mal d'intérêt. Il y a des réfrigérateurs qui ont du nano-argent dedans pour anti-odeur et contrôle bactérien. Et ils se trouvent dans cette catégorie-là, les réfrigérateurs. C'est-à-dire, les nanoparticules sont extrêmement liées. Et c'est seulement au moment de la dégradation du support que l'on risque d'avoir une exposition. Là, par exemple, vous avez du dioxyde de titane qui est photocatalytique, que l'on met sur les murs, et dont le but est d'éviter que les murs se salissent. Hein. Et donc, petit à petit, vous avez une photocatalyse qui va se faire et toutes les matières organiques qui vont se poser dessus vont être nettoyées. Et donc, cela, le problème, ça ne va pas être au moment de l'utilisation. Hein. Ici, si vous avez des nanoparticules à l'intérieur, bon, pareil, à moins de manger le téléphone. Hein. Là, ça va être au moment où les gens vont travailler hein, sur le mur, celui qui va percer, celui qui va le démonter. Et c'est au moment de la fin de vie. Et du recyclage. Et là, par exemple, ici, c'est une crème solaire. Vous n'avez aucun risque quand vous allez mettre la crème solaire, à moins que vous emballiez le pot, hein, mais vous n'avez aucun risque avec la crème solaire. Par contre, quand la crème solaire va se retrouver dans l'eau, elle va se dégrader. Et là, à ce moment-là, on va se retrouver avec les particules qui vont être dans l'eau. Et elles vont aller où, ces particules ? Hein ? Et là, il faut qu'on commence à tenir compte sérieusement du cycle de vie. Alors, au niveau des travailleurs, voyez un peu, quelqu'un qui travaille dans une atmosphère où il y a des fabrications de nanotubes, dans un nanotube de carbone, là, c'est un nanotube de carbone, bah, ils sont obligés de s'étabiller comme des cosmonautes et d'utiliser des moyens comme ça. Si vous travaillez sur des nanoparticules en tant que chimiste, vérifiez que votre hôte à flux laminaire est bien adapté pour les particules ultra fines. Parce que depuis 2000 que je suis dedans. Je suis allé à l'INSERM voir des copains qui travaillaient dessus. Ils étaient devant le pot et ils se prenaient en recyclage tout ce qu'ils n'avaient pas quand ils travaillaient. Hein. Ou alors, c'était sur le toit de la faculté. Et si vous regardez les toits de faculté, vous avez une prise d'air, une prise d'air, une sortie. Hein. Et donc, il vous faut des masques extrêmement performants. Hein. Et donc, si on arrive à mettre des masques extrêmement performants comme ceci, eh bien, on arrive à éviter les expositions aux gens. Mais à condition d'avoir des habits spéciaux, parce que si vous en mettez sur les habits, au moment où vous défaites vos habits, eh ben vous respirez les particules qui sortent de vos habits, c'est le problème de l'amiante. Quand les ouvriers sortaient de l'usine d'amiante qui prenaient leurs enfants dans les bras, ben le gamin il respirait en l'espace de quelques heures hein, tout ce que le père avait pris sur son habit. Alors, le cycle de vie, c'est embêtant. hein, avec une concentration, une bioconcentration qui va aller de plus en plus. Et la bioconcentration ultime, c'est l'homme. Et pour l'instant, on ne sait pas très bien où on va. Hein. Et quand vous regardez, si vous avez le temps, vous regarderez la chaîne alimentaire, bah, ça tourne dans tous les sens. Hein. Il y a des particules qui vont rester dans l'eau, qui vont être absorbées par toutes les espèces. Vous en avez d'autres qui vont se sédimenter. Vous en avez d'autres qui vont être incorporées dans les plantes et qu'on va manger. Et puis, petit à petit... Alors, c'est ce qui crée l'inquiétude. En plus, quand on regarde, ça, cette diapositive, je l'ai depuis 2005. Je n'ai pas encore réussi à enlever une seule ligne. Hein ? On est toujours en train de se poser la question des mécanismes toxicologiques. Parce qu'en fait, les nanomatériaux, c'est un terme générique, ça n'existe pas. C'est un nanomatériau à chaque fois. Il suffit que vous changiez la taille. À un moment, on vous a montré qu'il y avait 12 paramètres. Vous diminuez la taille, mais vous augmentez la porosité, c'est plus le même. Il va réagir différemment. Vous modifiez un peu le contrôle. En plus, les nanomatériaux ont tendance à se coller sur tout ce qui se passe et il y a ce qu'il y a autour, une espèce de biocouronne faite de protéines, de bactéries, de tout ce qu'on a pu avoir. Hein, et ça sert de cheval de Troie. Donc les mécanismes toxicaux, on ne les connaît pas bien. Les voies de pénétration, on commence à savoir, mais on ne connaît pas tout. Les transports, bioaccumulation dans l'environnement, alors on ne sait rien. Pratiquement rien. Les émissions volume, là, c'est ce qu'essaye d'avoir l'ANSES avec cette déclaration obligatoire. Mais entre nous, c'est une usine à gaz et je me demande comment ils réussissent à gérer ça. Parce que j'ai reçu il y a 2 jours le document explicatif pour les déclarations. Je peux vous assurer qu'il faut sortir de Saint-Cyr pour essayer de comprendre ce qu'ils font. Donc, on n'a pas beaucoup les volumes et les méthodes de contrôle sont difficiles, tout simplement parce que on ne sait pas pour un type de nanoparticules quel type de contrôle il faut mettre en place, puisque ça peut être pour certains le nombre de nanoparticules, pour d'autres ça peut être la taille, pour d'autres ça peut être la porosité, pour d'autres ça peut être la biocouronne en fonction de ce qu'ils ont eu, c'est-à-dire la contamination. Et donc il faut essayer de savoir. Alors la question qu'on se pose, et c'est pour ça que Vivagora m'a demandé de venir, c'est quels sont les problèmes éthiques? Bien entendu, et là j'en parlais à table avec quelques-uns de vous là, quelle est la responsabilité des chercheurs et des développeurs et des industriels? L'histoire du chercheur fou. Actuellement, les associations se posent la question en disant, ben voilà, on a un chercheur, il sort n'importe quoi, et puis il le met à disposition, puis après il s'en fout. C'est pour ça que maintenant, vous voyez dans l'ANR, de plus en plus d'ONG qui sont impliquées et qui vont donner leur avis sur le développement des sciences. Jusqu'où ils peuvent aller sans contrôle? Et ça, ils essayent de mettre un contrôle là-dessus. Comment appliquer le principe de précaution sans aggraver le problème technique? Parce que le problème du principe de précaution, le principe de précaution standard, c'est « je ne sais pas, j'arrête ». Ça, c'est le truc le plus bête. Par contre, dès l'instant que vous êtes un peu scientifique, « je ne sais pas, je prends des précautions et je progresse » pour essayer de comprendre pourquoi je ne sais pas. Or, dans le grand public, le principe de précaution, c'est il y a des morts sur une route, on arrête la route. Hein? Alors, est-ce qu'on va être en mesure de répondre pour l'impact sur la santé des populations, l'impact sur l'environnement, hein, avant l'apparition de problèmes? Et c'est là la discussion de ce matin. Est-ce qu'on a un risque épidémiologique qui va sortir quelque part à un moment donné? Et ça, on ne sait pas. Alors, il y a le Centre d'analyse stratégique qui a fait une cartographie globale de la façon dont les nanos étaient perçus en France. Alors, vous avez pièces et main d'œuvre, c'est des radicaux. Ceux-là, je les ai eus quand, avec Vivagora, on a fait en 2005 le nanomonde. Ils sont venus perturber nos réunions en disant il faut tuer les chercheurs, il faut fermer le CNRS et il faut arrêter les nanonécrologies. Hein? Donc, ceux-là, ils sont contre. Hein? Nanototalitarisme, ils ne veulent même pas discuter. Hein? On ne peut pas discuter, on a essayé. Et pourtant, on n'était pas pour ni contre, on faisait une réunion. Hein? Ils ont dit ce n'est pas possible. Vous avez le France Nature Environnement, et les amis de la Terre qui disent attention, il faut regarder, il faut faire des moratoires. Vous en avez d'autres qui sont un peu plus tranquilles, comme l'OCDE, comme le CEA, qui est un très très bon organisme dans ce domaine, et puis d'autres, alors là, les transhumanistes, qui disent ça y est, c'est formidable, on va créer des hommes nouveaux, hein, et on n'aura plus de problème. Le National Nanotechnology National Initiative, et puis d'autres qui vont vraiment... Et là-dedans, nous, eh ben, il faut qu'on arrive à évoluer. Parce qu'on ne peut pas développer les nanotechnologies en oubliant ce que disent ces gens-là et en n'écoutant que cela. Donc il faut essayer de trouver un moyen de faire ce qu'on appelle un développement responsable. Alors, regardez les ONG. Hein, Vivagora a fait partie de ces trucs. Principe de précaution, on doit régir les nanotechnologies parce que la recherche est effectuée. Hein, et donc, ça devient dangereux. Et ça, c'est au niveau international. Et alors, c'est les plus doux. Hein. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut arrêter tout de suite et il faut fermer les labos. Et les questions posées par les nanos, je mets tout en même temps parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps. Les questions posées par les nanos, la qualité des produits, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, hein, je vous fais des chaussettes à l'argent, c'est vrai, c'est utile. Bon, par contre, je vous mets des nanos dans des raquettes de tennis, est-ce que c'est vraiment utile? Ça serait utile pour le champion de tennis qui, lui, a besoin d'affiner son coup. Mais pour le type normal qui joue un petit peu au tennis, c'est comme avoir une voiture de course pour aller chercher son pain. Hein. Donc la question, s'il y a un risque, est-ce que ça vaut le coup de le faire? L'impact des produits, hein, nouveauté de la nature des risques, comme on ne sait pas très bien quels sont les risques, il va falloir qu'on regarde l'effet de taille, la biopersistance. Il ne suffit plus, par exemple, Rich, les nanotubes de carbone ont le même numéro CAS que le carbone, hein, que le carbone black. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de possibilité de discriminer. Hein. Et pourtant, il faudrait discriminer. Et on ne va pas faire un numéro CAS différent. Ensuite, les usages. Alors, la discussion, c'est futilité ou pas. Et le problème, c'est que si on n'arrive pas à discuter tous ensemble, on va avoir des ayatollahs qui vont dire c'est futile. Si vous m'aviez demandé, il y a 30 ans, si le téléphone portable était utile à tout le monde, j'aurais dit, je suis pas sûr, il y a des cabines partout, et en plus, il fallait trimballer. Les premiers téléphones, c'était pratiquement 5 kilos, hein, une batterie, un truc comme ça. Je dis, si les gens se baladent avec ça, ça va devenir fou. Donc si on m'avait demandé à cette époque-là de bloquer les téléphones portables, ça aurait été une catastrophe. Parce que vu la technologie qu'on avait, j'étais incapable de dire c'est utile ou futile. Pour moi, c'était futile de voir des gens avec un sac à main de 5 kilos, rien que pour téléphoner dans la rue. Hein. Donc, il faut qu'on arrive... Hein, regardez les chaussettes au nano-argent. On a fait une discussion avec Vivagora sur les chaussettes au nano-argent. Et puis, les ONG ont dit c'est futile. Puis il y en a un qui a dit non, ma mère, elle a un diabète. Et elle fait des varices qui s'infectent. Ah, c'est utile. Alors, d'un seul coup, on a dit c'est futile, sauf pour les diabétiques. Puis après, il y en a d'autres qui ont dit oui, mais ceux qui travaillent et puis qui sont au chaud, qui ont des chaussures de sécurité et puis qui risquent d'avoir des blessures aux pieds parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ah ben oui, ben sauf pour ceux-là. Puis petit à petit, ben on s'est retrouvé à ne plus savoir quoi faire. Bon, l'information, c'est bien beau. En 2013, on va mettre... Il y a des nanos sur les cosmétiques. Ça veut dire quoi? Hein? Ça ne sert à rien. Et là encore, c'est une connerie, excusez-moi, mais ça ne sert à rien de mettre qu'il y a des nanos dans un produit si on est incapable d'expliquer s'il y a un risque ou pas. Hein? S'il y a un risque, on met. S'il n'y a pas de risque, on n'a pas besoin de le mettre. Parce que de toute façon, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir des produits avec ou sans cosmétiques. Et on a fait un travail sur les cosmétiques. Et dans les cosmétiques bio, dans lesquels il n'y a que du dioxyde de titane, il y a des nanos. Parce que dès l'instant que vous faites du dioxyde de titane micrométrique, vous avez une queue de dioxyde de titane dans lequel il y a des nanos. Et si vous n'avez pas un système de filtration extrêmement performant, eh bien, vous en avez. Donc, tous les gens qui vont vous dire « Moi, je mets des cosmétiques bio dans lesquels il n'y a pas de nanos », si vous tombez sur un pernicieux qui a un bon appareil de mesure, il va trouver des nanos, il va faire des procès comme il y a eu en Australie. Parce que le procès d'Australie, qu'on vous a dit, on n'a pas eu le temps d'aller plus loin, mais les gens, ils n'ont pas fait exprès de mettre de l'oxyde d'argent nanométrique dedans. Ils pensaient sérieusement qu'il n'y en avait pas. Hein ? Et pour les aliments, ça va être en 2014. Alors, signaler ou pas la présence, donc regardez, là, hein, le petit truc. Est-ce qu'il y a des nanos ? J'en suis à la page 65 de l'étiquette. Hein ? Ça veut dire que ça ne sert à rien. Donc il faut se méfier des réactions épidermiques. Et la déclaration française et l'étiquetage, c'est des réactions épidermiques de gens qui n'ont pas le temps ni l'envie de comprendre le problème. Parce que c'est idiot. Hein ? Après, le problème de définition, c'est quoi des nanos ? Ce qu'utilise L'Oréal comme dioxyde de titane dans ses cosmétiques, ce n'est pas des nanos. C'est 600 nanomètres à 1000 nanomètres. C'est au-dessus. Les nanos, ça s'arrête à 1000, à 100. Donc, ce n'est pas des nanos. Et pourtant, si on casse la structure, ça devient des nanos. Hein ? Quel étiquetage ? Hein, regardez, il y en a qui ont inventé des étiquetages. Hein, on se croirait... Moi, je suis allé dans un laboratoire, il y avait ça. Hein, vous avez l'impression d'être carrément dans une usine atomique. Et la traçabilité, qu'est-ce qu'on va en faire ? Hein ? Parce que ça ne va servir à rien. Si vous avez le temps de regarder, la façon dont on va faire la déclaration, c'est fabuleux. Hein ? Il y a une série de cascades entre le producteur qui envoie au distributeur qui change le numéro de déclaration, parce que le producteur fait une déclaration, le distributeur une déclaration, l'utilisateur une déclaration, et à la fin, vous avez trois déclarations pour le même produit. Et je me demande comment on va s'en sortir. Alors, bien entendu, il faut arriver à communiquer et à informer les gens. Alors, regardez, la documentation pour ceux qui travaillent, là, les fameuses SDF, la documentation pour ceux qui l'utilisent, ça va être ça. Puis là, on va se retrouver pour les consommateurs. Le consommateur, on n'a pas besoin de lui expliquer en long et en large que c'est, surtout s'il ne sait pas à quoi ça va lui servir. Alors, la protection des travailleurs, problème de sécurité, problème des protections des travailleurs, absence de règles et des cadres de bonnes pratiques. Maintenant, il y a de plus en plus de bonnes pratiques. On en a fait, j'ai participé à la rédaction d'une bonne pratique pour l'UIC. Si vous allez sur l'UIC, vous verrez. Ben, si vous lisez ça, vous apercevrez qu'on a pris des principes généraux parce qu'on est incapable de voir quelque chose de très, très spécifique. Il faudrait faire une bonne pratique pratiquement par série de types de nanos. Veille sur les risques, comment l'assumer ? Réglementation non fixée, bien entendu, on en a parlé tout à l'heure. Hein ? Alors, il y a eu des nanocodes qui se sont faits. Hein ? En France, à FNOR, j'ai travaillé avec la FNOR dans ce domaine. Mais la FNOR, ben, il se heurte à la définition. C'est quoi une nano ? Alors, ce qu'il y a eu, en 2009, il y a eu un congrès et cette constatation. Actuellement, pas de sécurité, ni de responsabilité, ni d'intégration des informations. Les produits sont sur le marché depuis longtemps. Le dioxyde de titane nanométrique, c'est plus d'une dizaine d'années qu'on l'utilise. Pas de préoccupation HSE a priori. J'ai une slide où il y a moins d'1% d'études pour la sécurité par rapport aux études de développement. En nombre d'argent, hein, en quantité d'argent mis en place. La R&D concentrée. Conclusion, il faut aller dans le sens des nanotechnologies durables. Informer le public, réviser et mettre en œuvre des restrictions commerciales. Et le principe, c'est pas de données, pas de marché. Mais ça, c'est le principe de précaution bloqué. Ça veut dire qu'il faut arrêter tout maintenant. Et donc, ce n'est pas possible. Hein ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut commencer à partager des connaissances. Vous avez des instituts. Actuellement, il y a 1300 et des poussières de substances, de produits qui revendiquent l'utilisation des nanos. Mais il y en a facilement 2 ou 3 000 en plus. Le registre des nanomatériaux, la France et la Belgique et l'Italie veulent se mettre. Bon, pour ce qui est de la France, réellement, c'est une usine à gaz. Et j'attends avec plaisir... avec gourmandise de savoir ce que va dire l'ANSES quand on aura fini les premières déclarations. Hein ? Ok ? Les épidémiologies. Alors, vous avez l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, qui dit on va faire de l'épidémio, mais de quoi ? Comment vous allez savoir que les gens sont exposés à des nanos dans le commerce ? Les travailleurs, bien sûr, mais j'ai pris du sel ce midi, toc, j'en ai. Alors, comment on va évaluer ça ? Et puis, information pour les entreprises, ça, on peut en arriver à gérer. Les entreprises, on peut arriver à les bloquer et à avoir des informations beaucoup plus directes. Alors, bien entendu, ça crée des problèmes. Le débat public, vous avez vu, c'était un foutoir. Si vous aviez eu la possibilité, je ne sais pas si c'est possible encore, mais c'est d'aller sur le site du débat public, vous voyez certains débats, les gens, l'audience a pris les papiers qu'on leur a donnés, vous avez les intervenants qui sont là, les autres, ils leur balancent des boulettes de papier pour les empêcher de parler, et puis vous voyez, le prof, il est là, et il essaye d'éviter les trucs, c'est un foutoir. Hein. Alors, bien entendu, ce qui est important maintenant, c'est de commencer à travailler, faire un produit sûr dès le début. Hein ? Mais ça aussi, c'est facile de le dire. Parce que faire un produit sûr, on s'en fout à la limite. Si vous prenez un produit qui est photocatalytique, il est photocatalytique, mais une fois qu'il est incorporé dans du verre, hein, vous savez que les tours à 800 étages, de 800 étages, elles ont des verres photocatalytiques. Une fois que c'est dedans, il n'y a aucune exposition possible, imaginable. Donc, plutôt que de partir du produit pour aller vers la sécurité, il vaut mieux aller vers les expositions potentielles. Hein ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donner prise pour avoir des informations sur les enjeux, expertise pluraliste, parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs experts ou plusieurs types de personnes qui interviennent dans ce domaine. Hein ? Et puis, il faut faire la concertation, parce qu'il faut qu'on arrive à mettre en place un système. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, Viva Agora a participé. Bon, si vous allez sur le site de Viva Agora, vous verrez, il y a pas mal de choses sur les nanos. Et là, c'est pluraliste, parce qu'il y a certaines choses qui sont dites où je ne suis pas forcément d'accord. Hein ? Ici, vous avez Asen Nano qui essaye de faire un recensement. Et là, voilà, vous avez Veil Nano qui est très bien aussi. Et là, vous avez tout ce qui se passe sur les nanos pratiquement en Europe. Hein ? Donc, en diffusant l'information, on crée... On augmente le niveau de connaissance des gens et on leur permet d'avoir une réflexion et dans ce domaine et de donner un avis qui est beaucoup plus. Bon, je vais aller assez rapidement sur ce qu'a fait Nano Viva Agora. Ceux qui sont intéressés, j'ai laissé quelques feuilles au fond hein, sur toutes les actions. Hein, on a fait des actions, débat public. Le Nanomonde, c'est là qu'on a eu la joie d'avoir les gens de... Et puis à Nano Vive aussi, d'ailleurs à Grenoble, ils étaient encore plus là, et ils étaient même attachés sur les grues qui fabriquaient une Ninatech. Bon, on a fait du Nano Forum au CNAM, qui marche bien, qui va repartir. Hein. Et puis on a des actions avec des industriels pour essayer maintenant de... On a fait, bien entendu, des ateliers citoyens. Et là, la dernière chose, ça a été une confrontation avec un industriel. C'est-à-dire l'industriel, il s'est dit, voilà, moi j'ai un produit, je voudrais savoir, discuter avec des gens qui sont des représentants d'associations pour qu'ils me disent quels sont les points qui, pour eux, paraissent inacceptables. Ça a été assez chaud par moments, et à la fin, on arrivait à une constatation des points durs. Et donc, 16 heures, c'est bon, je vais avoir fini. Ce qu'il faut faire, c'est maintenant aller vers... une innovation responsable. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive maintenant, parce qu'on ne peut pas continuer à se bagarrer entre les gens qui sont contre, les gens qui sont pour. S'ils ne discutent pas entre eux, ça n'avance pas. De toute façon, même si on bloquait tous les nanos en France, elles reviendraient par la Chine, elles reviennent par l'Europe, elles reviennent partout. C'est comme les OGM. Celui qui ne veut pas manger d'OGM en France, il faut qu'il arrête de manger. Hein, parce qu'il y a du porc qui est nourri aux OGM, vous avez des OGM qui sont introduits via les États-Unis, donc vous en avez un peu partout. Donc, ça ne sert à rien de faire un blocage. Ce qui vaut mieux, c'est discuter avec les gens qui sont impliqués pour qu'ils puissent faire du nano-responsable, l'innovation responsable. Et donc, faire un copilotage, un contrat social et mettre des indices. Tiens, c'est resté, ça. Oui, bah, je la mettrai après. Alors, on est en train de lancer actuellement, à Viva Agora, une démarche qu'on appelle nano-responsable. Les ministères... Ah ben, il n'est pas parti. Bon, trop tard. Alors, dans le nano-responsable, vous avez des parties prenantes. Alors, nano-responsable, c'est une initiative qui a été lancée par les Français via l'AFNOR et qui se retrouve au niveau de l'ISO. Hein ? Et donc, les ministères sont parties prenantes, ou certains ministères, ceux qui voudront, des industriels et des organisations. Tiens, c'est marrant, j'ai une slide qui manque. Hein ? Et donc ça, ce dialogue nano-responsable devrait permettre de faire un peu ce qu'on a fait avec un industriel, c'est-à-dire dire, Voilà, nous, les consommateurs, on a peur, par exemple, du dioxyde de titane dans l'aliment. On n'en veut pas. Donc là, on va bloquer et on dira, on n'en veut pas. Par contre, on n'est pas contre d'avoir d'un tube de carbone dans les raquettes de tennis. Je dis ça, c'est des exemples idiots, hein, mais parce que ça ne pose pas de problème. Par contre, on veut bien en avoir du dioxyde de titane dans les cosmétiques, à condition que vous ayez mis en place un système de contrôle de ce qui va se passer dans l'environnement. Hein ? Et c'est comme ça que ça devrait pouvoir se faire. Hein ? Autrement, bon, je vous ai mis, si vous voulez lire un petit thriller, Le meilleur des mondes, c'est Dorothée qui a écrit, il est au fond. Moi, j'ai participé à un bouquin avec Alexis Greenbaum, qui vient demain, sur les risques émergents. Et tout ce que je vous ai dit sur les nanos en quelques minutes, c'est un peu plus détaillé. Voilà.
Les questions ?
Bonjour et merci pour votre intervention. Je voulais savoir, j'ai entendu parler de nanomatériaux biodégradables. Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours un risque au niveau de la santé ?
Dans les nanomatériaux, vous avez deux styles, globalement. Vous avez les liposomes, les nanosomes, qui sont des espèces de coques dans lesquelles vous pouvez mettre un principe actif. On en trouve dans l'aliment. Par exemple, BASF a développé des liposomes dans lesquels on garde la vitamine A. Donc, vous achetez un jus de fruits et dans lequel vous avez la vitamine A qui va rester en permanence dedans, quel que soit le temps de conservation. Et la vitamine A va se libérer qu'une fois qu'elle sera en contact dans l'estomac ou dans l'intestin. Hein ? Donc, vous avez ce genre de choses. Donc là, il n'y a aucun risque. Et même, c'est un progrès énorme pour les sociétés dans lesquelles il n'y a pas de chaîne de froid. Vous pouvez garder la vitamine C, vous pouvez garder la vitamine A, toutes des vitamines qui vont se dégrader et qui vont se retrouver dans les petits sacs à l'intérieur des liquides qu'on va absorber et qui vont s'ouvrir que dans l'estomac ou que dans l'intestin, ça dépend. On est capable maintenant de faire ouvrir ces sacs à n'importe quel endroit de l'organisme en fonction du pH et en fonction du temps de transit. Hein ? Par contre, après, vous avez des nanoparticules d'oxyde. Bon, bah, quand vous avez du dioxyde de titane, il n'est pas biodégradable. Quand vous avez du nano-argent, ce n'est pas biodégradable. Quand vous avez de la silice amorphe, ce n'est pas biodégradable. Par contre, elles peuvent s'agglomérer. Elles peuvent faire des blocs et puis être excrétées et être directement et sédimentées directement dans l'environnement. Hein. Mais quand vous l'avez dans l'organisme, eh bien, vous avez deux choses pour vous en libérer. C'est soit vous les excrétez naturellement, soit ça va être pris en charge par ces fameux macrophages. Hein, on a la même chose au niveau du cerveau, ça ne peut pas être des macrophages, mais on a la même chose qui vont ressortir les produits. Par exemple, quand vous avez une particule dans le profond des poumons qui est totalement non biodégradable, eh ben, les macrophages vont prendre la particule et vont migrer le long de ce qu'on appelle l'escamateur à mucus, l'appareil mucociliaire qui se trouve dans la trachée, et on va se retrouver avec ça dans la bouche. Hein ? Si vous allez dans un jour dans un endroit où il y a de la poussière, à un moment, vous crachez la poussière. Bon, c'est le nettoyage des poumons. Bien sûr, si vous ravalez, vous refaites un cycle. Hein ? Faites un cycle par l'estomac. Mais c'est le seul moyen de partir. Hein ? Soit ça traverse, soit c'est pris, soit c'est biodégradé, soit ça traverse dans le sang et on retrouve dans l'urine ou dans les fesses. Et le problème qu'on a avec les produits médicamenteux, c'est le même. Hein ? Sauf qu'on est dans des cas extrêmes pour l'instant. Et on en discutait tout à l'heure. La difficulté, ça va être quand on va faire du traitement à long terme sur des gens, par exemple pour le traitement du diabète ou autre chose, si on trouve un moyen de mettre de l'insuline différemment. Et là, à ce moment-là, ben, on risque d'avoir une accumulation de particules dans l'organisme et on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Vous êtes assommé, là.
Vous regardez le timing. Je voulais dire aux étudiants qui sont inquiets, qui sont au fond, là, c'était une bonne remarque, vous ne voyez pas bien les PowerPoint, mais les conférences vont être en ligne et on va récupérer donc les PowerPoint, vous pourrez regarder les PowerPoint. Donc ne vous inquiétez pas, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais en général, le conférencier, il dit aussi, raconte ce qu'on a vu, ce qu'il dit, voilà. Donc merci beaucoup, monsieur Lombard, on regrette de ne pas vous garder une deuxième journée. Vous reviendrez. Bon, bonne soirée à tous. À demain.
sur notre... Sur la télé. Je crois que depuis des... Alors là, franchement, j'ai appris...